poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Comme souvent, ce sont les informations locales qui ouvrent cette émission. C'est ensuite un appel lancé par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. L'émission se poursuit avec un rappel par le Conseil œcuménique des Églises des enjeux de la COP30 qui s'ouvre à Belém au Brésil ces jours-ci. L'émission se termine avec un appel à ce sujet de la Conférence des responsables de culte de France. Information locale. À Nîmes, la maison du protestantisme, située non loin de la maison carrée, au 3 rue Claude Brousson, vous accueille le matin du mardi au vendredi de 9h30 à midi et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h. Pour atteindre la maison du protestantisme par téléphone, vous pouvez faire le 04 66 67 97 40. Si vous souhaitez envoyer un mot par courriel, vous pouvez le faire en indiquant l'adresse suivante mdp.nim@free.fr. La maison du protestantisme organise des repas le jeudi. Ces repas auront lieu les jeudis 13, 20 et 27 novembre prochains, à midi et quart. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Le groupe Évangile et Liberté se réunira à la Maison du Protestantisme le mardi 18 novembre à 17h30 sur la question « De quel Dieu sommes-nous athées ?» Et le groupe Les Embruns se réunira, lui, le jeudi 20 novembre à 15h sur le thème « L'exorcisme et la lutte contre le mal ». L'atelier Théophilo aura lieu, lui, le lundi 24 novembre à 18h30. Le thème jusqu'en décembre est « Kant ». La bibliothèque de la Maison du Protestantisme est ouverte tous les vendredis de 14h à 16h. Elle accueille les lecteurs, les chercheurs. Le prêt des livres est gratuit. Elle propose des revues comme Histoire du protestantisme, Études théologiques et religieuses et bien d'autres. À la Maison du protestantisme, vous pouvez trouver aussi un point livre dans le hall de la maison avec un espace librairie, un choix de Bible et d'autres ouvrages sur les questions éthiques ou sociétales. L'Université populaire des religions se poursuit. Les cours ont lieu tous les mercredis à la Maison du protestantisme de 19h à 20h30. Trois grandes figures, trois religions au Moyen-Âge. Et le 12 novembre prochain, à 19h, ce sera un cours sur Maïmonide par Daniel Benfredge, professeur d'histoire et géographie, docteur en géographie et aménagement, président de la LICRA à Nîmes. Moïse Maïmonide, rabbin érudit et philosophe du Moyen-Âge, n'a pas cessé depuis le XIIe siècle de susciter un intérêt constant. Paradoxe du personnage, les autorités rabbiniques qui l'ont considéré comme le plus grand des penseurs juifs ont dans un même mouvement fait défense à leurs fidèles d'étudier une bonne partie de son œuvre et en particulier le guide des égarés où Maïmonide cherchait à concilier la foi et la raison pour convaincre ses contemporains perplexes sur la religion. nous replacerons Moïse Maïmonide dans le contexte historique de son époque, puis, à travers l'étude de certains textes, nous essaierons de comprendre l'apport novateur de ce rabbin et savant du point de vue du judaïsme comme de la pensée de son temps. C'est donc le mercredi 12 novembre à 19h à la Maison du Protestantisme. Du 13 au 19 novembre, dans le hall de la Maison du Protestantisme, il vous sera possible de visiter l'exposition de Nadine Martin Delaubre. Donc du 13 au 19 novembre. Le vernissage aura lieu le 14 novembre à 18h. Vous pourrez écouter prochainement deux conférences. Tout d'abord, le jeudi 13 novembre, à la Maison du Protestantisme, ce sera une conférence qui sera donnée par Jean-François Zorn, professeur émérite d'histoire du christianisme à l'époque contemporaine, qui présentera son dernier livre, Une mission protestante dans les temps de crise, la mission de Paris de 1914 à 1971, livre paru tout récemment aux éditions Cartala. Donc le jeudi 13 à 18h30 à la Maison du Protestantisme. La seconde conférence sera une conférence de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Cette conférence aura lieu à Carré d'Art, le samedi 15 novembre à 16h, autour de Philippe Maurice. Philippe Maurice est chargé de recherche au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales. La conférence aura pour thème Jacques Pineton de Chambrun, un humaniste languedocien au XVIe siècle, juriste, antiquisant, latiniste, poète et théologien. Jacques Pineton de Chambrun, disparu de la mémoire historique, fut pourtant pasteur en Languedoc de 1562 à 1601, principalement à la tête de l'église réformée de Nîmes, qui lui doit beaucoup de son rayonnement à l'époque. Redécouvrons ensemble cet éminent représentant de la communauté des humanistes, artisan de l'épanouissement de la culture française au XVIe siècle. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ici à Nîmes, Christian Garel de la paroisse de la Fraternité communique régulièrement les appels de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'un des derniers est un appel à soutenir une ressortissante pakistanaise, Shagufta Kiran, infirmière de 41 ans, mariée et mère de 4 enfants. Elle fait partie des 1,6% de chrétiens en République islamique du Pakistan, avec 96,4% de musulmans et 2% d'hindous. La société pakistanaise s'islamise depuis la dictature de 1977 et la remise en place en 1986 de l'interdiction du blasphème. Cette interdiction, honteusement mais résolument, a toujours cours dans le pays. Toute remarque vis-à-vis du prophète sacré, à l'écrit ou à l'oral, ou par représentation visible, ou toute imputation ou insinuation, directe ou indirecte, sera punie de la mort ou de l'emprisonnement à vie, et aussi passible d'une amende. Les applications abusives de cette loi sont nombreuses suite à des règlements de compte personnels ou communautaires, augmentant la persécution des minorités religieuses, notamment des chrétiens pakistanais, qui déjà, malgré les promesses de liberté religieuse figurant dans la Constitution, subissent des violences et des discriminations au quotidien. Pire, des événements tragiques comme l'attaque de la Jaranwala en août 2023 où des églises ont été incendiées à la suite d'accusations de blasphème ont fait voter un alourdissement des peines pour toute insulte aux proches du prophète. Ainsi, il a suffi qu'un musulman pakistanais accuse Shagufta d'avoir transmis, sans même l'avoir écrit, un message jugé blasphématoire sur WhatsApp pour qu'elle passe 3 ans en prison avant d'être condamnée à mort le 18 septembre 2024. Sa peine sera applicable après 4 ans de plus en prison, tant macabre car propice aux tortures, au lynchage ou au suicide. Avec l'ACAT France, mobilisons-nous pour la libération de Chakoufta et de tous les prisonniers de conscience au Pakistan. Dénonçons massivement l'utilisation abusive des lois sur le blasphème qui menacent et persécutent les minorités religieuses. Écrivons massivement au Premier ministre par l'intermédiaire de son ambassadrice à Paris. Des cartes sont distribuées à la sortie du culte à la fraternité. Vous pouvez aussi en obtenir en écrivant à Christian Garel, ACAT, Fraternité, 9 rue Antoine Delon à Nîmes. Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises qualifie la COP30, conférence pour le climat, de moment kairos pour une transformation climatique. Tandis que le plus grand rassemblement au monde pour le climat débutera le 10 novembre en Amazonie, le Conseil œcuménique des Églises estime qu'il représentera un moment kairos inédit, un tournant exigeant une réponse. Cette conférence doit entendre la voix des populations autochtones et des communautés en première ligne comme jamais auparavant. La COP30 est un moment kairos qui exige d'opter pour la transformation et non la destruction, pour la solidarité et non l'extraction, pour la vie et non les profits, a expliqué l'évêque Heinrich Bedford Strom, président du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Il ne s'agit pas uniquement de passer à une énergie plus propre, il s'agit d'avancer vers une métanoïa écologique. Une métanoïa, c'est une conversion, un changement radical de direction. Pour transformer nos cœurs, nos économies et nos civilisations, nous devons mettre en avant la sagesse des populations autochtones qui ont été les gardiennes fidèles de la création de Dieu depuis des générations, et nous devons veiller à ce que la finance climatique apporte la libération et n'enchaîne pas à de nouvelles dettes. Les communautés inspirées par la foi font pression sur trois exigences clés des plans d'action climatique nationaux ambitieux, avec une véritable redevabilité, un financement des efforts climatiques ancré dans la justice, passant par des subventions et non des prêts, et une annulation de la dette et une transition juste vers une véritable transformation socio-écologique appuyée sur la sagesse autochtone et rejetant les fausses solutions. Protéger les droits des populations autochtones, des enfants et d'autres groupes vulnérables fait partie intégrante de cette transformation. Les plans climatiques sans financement sont des promesses sans substance, explique Athena Peralta, directrice de la Commission sur la justice climatique et le développement durable du Conseil œcuménique des Églises. Les pays riches doivent apporter 1,3 milliard de dollars des États-Unis requis d'ici 2035 sous forme de subventions et non de prêts. Les pays vulnérables au changement climatique se noient dans les dettes tandis que le niveau des mers ne cesse d'augmenter autour d'eux. La campagne œcuménique Transformer la dette en espoir appelle un jubilé, une annulation de la dette ancrée dans une justice biblique et non dans la charité. Annulez les dettes et permettez aux pays d'investir dans la protection et non dans le remboursement. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les émissions mondiales doivent baisser de 43% d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Les promesses actuelles ne suffisent pas. Lors de la COP29 en 2024, les pays étaient convenus que les nations les plus nanties fourniraient 300 milliards de dollars des États-Unis par an d'ici 2035. Le pasteur Henrik Grapp, conseiller du Conseil œcuménique pour le soin de la création, la durabilité et la justice climatique, a remis en question ce qu'il qualifie de fausse solution, une transition juste ne peut pas s'appuyer sur la création de nouvelles zones de sacrifice. Les populations autochtones ne sont pas de simples participants et participantes, elles sont les gardiennes des écosystèmes dont dépend notre survie. Leurs connaissances traditionnelles et leurs droits territoriaux doivent être au cœur des échanges. La transformation sera socio-écologique et civilisationnelle ou ne sera pas. Il s'agit de défendre les droits des populations et de la nature. La COP 30 est le premier grand événement mondial pour le climat pendant la décennie écuménique d'action pour la justice climatique de 2025 à 2034, lancée à Johannesburg en juin 2025, qui appelle les églises partout dans le monde à transfigurer, à intensifier leur témoignage par la prière, le plaidoyer et l'action transformatrice. Toujours à propos de la COP 30, on peut remarquer que les religions de France alertent sur l'urgence climatique. Voici un extrait de la déclaration des représentants des cultes en France à l'occasion de la COP 30. Un chemin d'espérance pour notre maison commune. Paris, le 4 novembre 2025. En ce temps où l'humanité se trouve à un tournant, nous, responsables de culte en France, voulons adresser une parole commune. Nous savons combien la Terre est éprouvée. Depuis des années, les scientifiques nous alertent sur les conséquences climatiques des émissions de gaz à effet de serre produites par un système économique basé sur les combustibles fossiles. Les saisons s'en trouvent déréglées, les incendies, les inondations et les vagues de chaleur sont aggravées et frappent des millions de personnes, y compris dans notre pays. Partout, des vies humaines sont brisées et la beauté du vivant est menacée. Nous ne pouvons détourner les yeux de cette réalité et c'est pourquoi nous reprenons la parole à l'occasion de la COP 30. Nous croyons qu'il n'y a pas de fatalité. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Elle peut encore s'orienter vers la vie et la justice si nous avons le courage d'aller vers une transformation profonde et nécessaire de nos manières de penser, de produire et de consommer. Nos traditions spirituelles, dans leur diversité, enseignent que la Terre n'est pas destinée à l'humanité seule. Elle est un don confié, un riche tissu, où le vivant et le monde sont profondément interdépendants, une maison commune à protéger. Elle nous rappelle que tout être est lié à tous les autres, que nul ne peut trouver la paix dans la souffrance d'autrui ou dans la destruction du monde vivant. Elles nous font comprendre notre fragilité et nous approprier notre communauté de destin. Nous sommes responsables vis-à-vis de la création ou de la nature et des plus vulnérables. Prendre soin du monde et de l'autre, c'est aussi cultiver en soi la paix, la lucidité et la compassion. Sauvegarder la création ou la nature, c'est sauvegarder notre humanité même. Nous affirmons qu'un autre chemin est toujours possible. Nous reviendrons sur ce chemin que propose la Conférence des responsables religieux de France dans une prochaine émission. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.